Bonjour, c'est le MAG sur Tropic FM. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir au téléphone Armel Pioline, chanteuse de l'artiste de l'année sur notre antenne, le groupe Holden. Armel, bonjour.
Bonjour.
Alors, artiste de l'année représente forcément quelque chose pour vous. Vous êtes sensible aux prix et aux trophées, aussi honorifiques qu'ils soient?
Ça dépend. Franchement, il y a des trucs, je serais dégoûtée de les recevoir. Et puis, il y a des choses qui font très plaisir. Ne serait-ce que cet artiste de l'année sur Tropic, c'est génial. Et puis, voilà, ça nous démarque un petit peu d'autres choses. Enfin, oui, ça fait plaisir. On va pas cracher en la soupe.
Alors, quel titre n'aimeriez pas vous avoir, alors?
Oh, je sais pas, les titres de chansons, là, genre, je sais pas, ah non, je vais rien dire, mais parce que ça se trouve, un jour, on va me le proposer, je vais avoir l'air bête, mais il y a tellement de prix liés à la chanson française, souvent, où quand je vois le tiercé gagnant, je me dis, oh, secours, que voilà, si un jour j'étais dedans, ce serait super mauvais signe, il serait temps que je change de boulot. Voilà, mais je ne titrerai personne.
D'accord. Alors, vous avez la reconnaissance d'un certain public et des médias spécialisés. Vous aimeriez être plus connu du grand public, quitte parfois à faire justement quelques concessions artistiques?
On aimerait bien sûr, et à mon avis, ça finira par arriver sans avoir de faire de concessions artistiques. Vraiment, je crois à la durée, à la fidélité d'un projet, d'une envie artistique. Ça va, c'est sûr que pour nous, ça va prendre beaucoup plus de temps que pour d'autres artistes qui ont réussi à cartonner des premiers albums. Mais bon, je suis assez confiante. Finalement, je me dis qu'on a déjà fait 4 disques. Les rares personnes sur cette terre qui ont nos 4 albums en font un espèce de tout, une espèce d'œuvre avec un petit haut, bien sûr, mais et que c'est des gens qui sont très attachés à notre parcours et que finalement ces gens-là ils finissent par semer la bonne parole, il me semble, et puis ça va finir par arriver, j'en suis sûre.
Bien. Alors, notre première rencontre radiophonique date du jeudi 23 novembre 2006 à l'occasion de votre passage à l'épicerie moderne à Faisin. Il s'est donc écoulé un peu plus de 3 ans. Alors, d'habitude, vous en aviez besoin de 4 pour tourner, écrire et enregistrer vos nouvelles chansons. Entre Chevrotine, sortie le 20 février 2006, et puis Fantomatisme, lancé le 24 mars 2009, il s'est écoulé un peu moins de temps. Vous aviez envie de développer rapidement le processus de création engagé avec Chevrotine, ou tout s'est enchaîné comme vous le vouliez, finalement?
Non, c'est pas... En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme on a beaucoup tourné avec Chevrotine, on a tellement eu peur que ça reprenne encore des années avant de sortir un 4e album. C'est vraiment, on a beaucoup, beaucoup bossé sur Chevrotine après, pour la promo, la sortie et tout. Que du coup, on a décidé d'un processus beaucoup plus simple pour Fantomatisme. C'est-à-dire, au lieu de maqueter intensément et longuement, comme on l'a toujours fait précédemment avec Moque, là, on est vraiment parti en studio, retrouver Seigneur Coconut à Santiago, avec une quinzaine de chansons en poche, mais juste écrites guitare-voix ou piano-voix, vraiment le morceau dans son plus simple appareil. Donc du coup, on a zappé toute la période de maquette, recherche, d'arrangement, etc. Et on a tout confié au producteur et au groupe, et on a fait tout ça ensemble sur place. Donc ça nous a rétréci le temps de fabrication de ce disque, finalement. Et puis aussi, on avait envie de changer un peu de processus. Donc tout ça tombait très bien, finalement.
D'accord. Alors, pour enregistrer et mixer les nouvelles chansons que vous avez écrites, Dominique Després et toi, êtes parti donc l'année dernière avec vos musiciens dans un pays que vous connaissez bien, hein, qui connaît bien Holden depuis votre premier album, L'Arrière Monde, c'est le Chili, hein, ouais. Et le studio Triana à Santiago du Chili en particulier. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous tenait le plus à cœur? Revenir voir le pays d'adoption de votre réalisateur, donc votre George Martin à vous, Uwe Schmidt, alias Seigneur Coconut, ou Atom, ou enregistrer vos nouvelles compositions? C'était quoi le plus important, le plus excitant pour vous?
Ah bah, enregistrer les morceaux, c'était d'autant plus excitant du fait de ce processus qu'on s'était instauré des règles assez excitantes en fait avec Moque, c'est que comme on ne maquettait pas et qu'on voulait quand même être à peu près au niveau des autres membres du groupe qui n'avaient jamais entendu les morceaux, on avait décidé que dès qu'on avait fini d'écrire un morceau, genre la dernière phrase ou le dernier accord plaqué, on le jouait 2 fois et on le rangeait dans un tiroir. Donc en fait, quand on est arrivé là-bas, on venait jouer des chansons que j'avais chantées parfois 2-3 fois seulement. Donc en fait, on découvrait un disque. C'était assez excitant, quoi. Voilà, donc c'était évidemment ça la carotte du truc. Et puis après, le faire à Triana, à Santiago du Chili, avec les Young Coconuts, c'est juste du bonheur supplémentaire et de l'excitation supplémentaire. Voilà, c'était chouette.
Et vous aviez besoin aussi d'un tel dépaysement, d'un tel changement de culture et d'univers pour enregistrer vos morceaux. Le travail serait le même en France ?
Non, je pense pas. Mais pour plein de raisons, hein, pas uniquement à cause de l'exotisme du Chili, c'est parce qu'en fait, une fois qu'on est en studio, finalement, ça pourrait être dans n'importe quel pays du monde. Mais non, c'est cet éloignement est vraiment salutaire, en fait, parce qu'on est quand même dans les boulots où on est très sollicité, que voilà, enfin bon, c'est pas, et puis ne serait-ce qu'avec nos confrères, consoeurs, quoi. Moi, j'aime bien dire à tous mes amis, les JP Nataf, les Bertrand Belin, les Barbara Carlotti, leur dire on se revoit dans 2 mois et je vous ramène un album, quoi. Alors si on enregistre à Paris, je sais qu'ils vont tous passer parce qu'ils auront tous envie d'écouter avant tout le monde. Ou je dis eux, mais c'est aussi, et bien pire, la maison de disques qui passe, l'éditeur qui passe, enfin, tous ces gens qui se sentent concernés, qui sont obligés de passer en studio. Là, on sait au moins qu'à Triana, à Santiago du Chili, personne vient nous voir. Voilà, et on vient avec un objet complètement vierge de tout avis extérieur, c'est vachement bien.
Alors, on pouvait suivre vos aventures chiliennes sur Internet via un blog de Libération,
ah oui.
Où vous racontez ce que vous avez vécu pendant ces quelques semaines. Vous aviez même amené votre fille de 7 ans qui avait intégré une école chilienne.
Ouais.
Alors, tout était réuni pour que rien ne vous manque, à part le Canard Enchaîné, Libération, France Inter et Paris, par exemple.
Je crois que vous êtes un bon lecteur de blog. Ouais, et encore, hein, vraiment la dernière semaine, on va dire. Non, mais il y a tout pour être heureux là-bas, bien sûr, surtout qu'on était extrêmement occupés, donc voilà, pas trop de nostalgie. Mais c'est vrai que Paris manque, aux Parisiens, je pense que Paris manque assez vite au bout d'un moment. Ouais.
Alors,
sa puanteur, son stress. Pardon.
Alors, en studio, plusieurs langues se télescopaient, hein, que ce soit l'anglais, l'espagnol ou le français. Alors, facile dans ces conditions d'expliquer simplement ce que l'on veut, la musique est un langage universel.
Ouais, je pense, ouais. Ouais, je pense, et puis en plus, ce mélange des langues, finalement, fait parfois approcher plus facilement du but, sans avoir à passer par moult métaphores ou je ne sais quoi, ou complications. En fait, voilà, c'est En anglais, si je veux un truc, je le dis d'un mot que tout le monde comprend. Et puis c'était chouette aussi cette répartition des langues. Comme j'ai expliqué dans mon petit blog, il y a des langues que certains pouvaient se parler entre eux, mais que les autres comprenaient pas. Donc ça permettait aussi quelques apartés, parce que c'est quand même malgré tout une espèce de vie complètement en communauté. En studio, on passe nos journées, voire des morceaux de nuit, où on est comme ça, 6-7 personnes à tout faire ensemble. Et c'est vrai que du fait de la technique qu'on avait employée pour cet album, donc tout était à inventer, c'était pas mal aussi parfois de pouvoir se parler en aparté sans que Seigneur Coconut puisse comprendre. Alors là, on passait au français ou bien en espagnol si je voulais pas que Moque comprenne quelque chose. Enfin voilà, mais c'était juste assez... Ça rend la chose très vivante en fait.
Ouais. Alors, pendant que vous étiez au Chili, vous avez pu constater que la popularité d'Holden n'avait pas baissé, hein, et que vous avez toujours une grosse cote d'amour auprès des Chiliennes et des Chiliens, que ce soit les radios, les télés, les promoteurs ou des musiciens, ou des artistes de branchés de la capitale d'ailleurs. Alors, quant à vous, je cite, « Quand je marche dans la rue, c'est bien simple, j'ai l'impression d'être la réincarnation de Marilyn Monroe. » Alors, pourquoi revenir en France où il n'y a pas le même engouement pour Holden?
Bah parce que j'ai pas envie de finir comme Marilyn Monroe, je crois. Ouais, non, je crois que c'est très appréciable à petite dose, évidemment. C'est une espèce de bain de jouvence quasi annuel maintenant. Ça fait 12-13 fois que je vais à Santiago.
Ouais.
Et c'est très agréable, évidemment. Et en même temps, tout ça, c'est pas la vraie vie, quoi. C'est vrai que parfois, quand je suis à Paris, je trouve ça un peu austère. Et puis, des fois, on rame pour certains trucs. Alors qu'à Santiago, il suffit de claquer dans les doigts pour que des producteurs aient envie de travailler avec nous, pour que des clippers aient envie de clipper avec nous. Enfin, tout est très, très facile, c'est vrai. Et en même temps, mais c'est pas la vraie vie, quoi. Je pense que ceci est dû au fait qu'on n'est pas chien, qu'on s'en va, donc on manque régulièrement, et que lorsqu'on revient, les gens ont voulu me faire savoir. Maintenant, si on passait toute notre vie là-bas et notre carrière là-bas, je pense que ça finirait par s'amenuiser. Et puis du coup, on n'aurait plus de lieu sur cette planète où aller se rafraîchir la tête et faire des choses qu'on peut pas faire ailleurs, quoi. Non, je suis très contente que ce phénomène un peu extraordinaire existe dans notre carrière. Je trouve que c'est chouette comme tout et j'ai vraiment envie de le préserver comme ça, quoi.
Mmh. Ouais. Alors, le résultat de ces semaines passées au Chili, donc c'est la sortie le 24 mars 2009 sur votre fidèle label, d'ailleurs, Village Vert, de votre quatrième album studio. Vous l'avez donc appelé Fantomatisme. Hein, les chroniqueurs intello parlent de néologisme. Quel rapport entre Holden et les fantômes et les spectres? Ce serait la définition actuelle de votre musique?
Ouf, ça l'a toujours un peu été, moi, je trouve. Enfin, on se laisse un peu hanter par des choses au moment d'écrire, au moment d'enregistrer. On aime bien ne pas être complètement maître de ce qu'on fait, finalement. Alors... ouais, je trouve que c'est un terme qui correspondait bien à nous en général, à cet album en particulier. Et puis, en fait, pour tout vous dire, je l'ai piqué à Georges Perec. J'étais en train de lire un petit bouquin de lui quand j'étais à Santiago en train d'enregistrer. Et puis, il y a eu ce mot qui a surgi comme ça au cours de ma lecture. Et j'en ai parlé à Moqueux et il m'a dit, c'est ça, c'est le titre. Donc, voilà.
D'accord.
Ça paraît évident.
Avec le nom de la pochette, et la pochette justement de ce nouvel album Fantomatisme, bon, le décor est planté, hein, vous voulez qu'un certain mystère plane autour d'Holden?
Oh oui, bien sûr. Ouais, autour de l'art en général, j'aime bien quand il y a un petit mystère qui plane. Ouais, c'est même pour nous-mêmes, quoi. Je crois que j'aimerais pas me voir à plat, là, comme ça, systématiquement sur ma pochette d'album. Comme beaucoup d'artistes français en général, je préfère voir des petites, pour moi nos pochettes c'est vraiment des petites œuvres d'art créées par des artistes, des graphistes, et je préfère le recevoir comme ça plutôt que comme ma pochette d'album c'est ma tête, quoi. Voilà, et je trouve que mises les unes derrière les autres, à chaque fois elles se ressemblent pas parce que c'est pas les mêmes artistes, mais en même temps il y a une certaine cohérence et je les trouve jolies. Je serais capable de les mettre chez moi, par exemple. Alors que si j'étais Vincent Delerme, je mettrais pas mes pochettes d'album sur mon mur. Bon, demain, j'adore Vincent Delerme. Mais ces pochettes sont quand même sacrément ringardes. Bon, voilà, c'était la petite pochette.
Alors, à la première écoute de ce nouvel album, on ressent une sensation de bien-être et puis de fraîcheur. Il y a un mot qui me vient rapidement à la bouche, c'est le mot beau. Fantomatisme est beau. Vous avez cette impression lorsque vous réécoutez les chansons ou que vous les jouez sur scène?
C'est très prétentieux, mais je vais répondre oui. Ouais, vraiment, c'est sur cette tournée, j'ai eu des frissons, en fait. En jouant, en écoutant, et c'était vraiment, vraiment très agréable. Ouais, ça arrive, c'est un peu la grâce de la musique, quoi. On sait pas bien pourquoi, tout à coup, il se passe un truc entre des harmonies, des accords, une rythmique, un mot qui est en train de se dire, et puis on se dit, là, ça fait mouche, quoi. Voilà,
Voilà. Alors il y a plein de petits sons, de petits bruits autour de la musique de Fantomatisme. Ils arrivent comment? C'est forcément programmé à l'avance ou les ingénieurs du son ont parfois abusé du pisco sourd?
Un peu les deux en général. on arrive toujours en studio avec une petite réserve. On a toujours des réserves de son, Moku et moi, dans nos ordi. Seigneur Coconut aussi. Et puis on en a aussi créé sur place parce que le studio, c'est aussi fait pour ça. Il y a des objets, des bruits. On est parti avec un nouveau batteur qui est spécialiste en bruit, par ailleurs, Jack Itochi, qui est un castroliste, on va dire, qui joue sur toutes sortes de gamelles, etc. Et puis, en fait, voilà, dès qu'il voit un truc duquel il peut extraire un bruit, il tape dessus, puis il voit ce que ça donne. Donc, on a eu pas mal de bruits créés comme ça, toutes pièces en studio. Et puis j'aime bien ça, c'est pas juste un truc pour faire moderne ou pour faire de la prod à la bec ou je ne sais quoi. C'est, je trouve que ça apporte un... J'ai toujours beaucoup aimé ça finalement dans les disques, dans les prods. Le fait d'avoir un peu de vie, la vraie vie qui se passe derrière, quoi. Alors voilà, c'est une des façons de le faire, c'est de ne pas s'interdire de faire un bruit sur un disque où normalement il y a une espèce de chapelle, de voûte de silence qui se crée, où rien ne doit percer. Bon, pour certaines prods, c'est très important, bien sûr, sur les prods classiques et tout ça, mais nous, je trouve qu'on est quand même des urbains, voilà, contemporains, et que ça va bien notre musique en fait. Ça la dédramatise vachement, je trouve. Mmh. Voilà pourquoi.
Ouais. Il y a aussi cette voix, la vôtre en l'occurrence, qui ne fait qu'un avec la musique, confirmant qu'elle est un instrument comme un autre. Vous en doutiez jusqu'à l'enregistrement de ce nouvel album?
Ouais, parce que je trouve qu'on a toujours tendance à considérer les voix comme, quelque chose à part, au-dessus de, enfin, un truc qui met beaucoup de pression pour rien, je trouve. Mmh. Finalement, ce n'est qu'un instrument comme un autre, effectivement. Et ça, j'ai mis longtemps à m'en rendre compte, et puis voilà, ça peut dire qu'on peut jouer faux, on peut jouer un peu armoire, on peut chanter faux et armoire, et c'est pas forcément très grave qu'on est obligé d'être parfait. Enfin, ouais, je pense que comprendre ça, ça m'a aidé à être un peu plus tranquille avec ça, quoi.
Ouais. Alors, vous n'en faites décidément qu'à votre tête du côté de la langue française, puisqu'après un néologisme pour le titre de l'album, vous faites une énorme faute de grammaire avec la chanson Les Grands Chevals.
Les Grands Chevals. Hein?
Alors, tout ça pour rimer avec cavale ou décimal, alors que chevaux, je vous rappelle, rimer avec faux et haut. Alors, comme votre fille, vous vous êtes fait engueuler dans votre école parisienne au point d'être fâchée avec les règles grammaticales.
C'est pourquoi ça, je ne sais pas. C'est sorti de façon tout à fait spontanée et on l'a laissé comme ça. Moi, j'aime bien les grands chevals.
C'est un rapport avec la rime aussi, oui.
Ça peut. C'est un peu dû à ça. Puis moi, c'est vraiment une des fautes les plus fréquentes chez les mômes. Et puis c'est marrant qu'elle soit récurrente comme ça. Voilà, vous faites un test dans une classe de maternelle et il n'y en a pas un qui va vous dire les grands chevaux. C'est comme une forme de langage propre à une certaine tranche d'âge. Dans le français, les mômes disent les grands chevals. Et je trouve que c'est génial. Et ça rime en plus.
Eh ben merci Armelle Pioline.
De rien, avec plaisir.
D'avoir accepté notre invitation, artiste de l'année All Group Holden. Rappelons quand même que votre quatrième album Fantomatisme est sorti le 24 mars 2009 chez Village Vert et puis qu'il faut se procurer de toute urgence car il est magnifique.
Merci beaucoup. Sans
oublier les trois premiers opus, hein, bien évidemment, dont le remarquable Chevrotine qu'on peut se procurer également.
Ouais, on peut encore.
Et puis on vous retrouve sur internet via votre MySpace, hein, myspace.com/holdenfrance, parce que votre site officiel www.holden.fr ne marche plus, c'est bien dommage.
Ah, c'est vrai?
Bon,
je vais m'en occuper un peu jour.
Bien. Et puis, on espère vous retrouver rapidement en concert dans la région et pas uniquement à l'épicerie moderne de Feuzin, où vous avez l'air de vous plaire là-bas. Hein.
Ouais, on aime beaucoup l'endroit. C'est très accueillant.
Bien.
Ouais.
Et bah, Armelle, bonne continuation, bon concert.
Merci beaucoup.
Et puis, à très bientôt sur Tropic FM.
Ouais.
Merci. Au revoir. Au revoir.